C'est bon.
Bon, allez, je commence. Donc, la raison pour cette présentation, on en a discuté un petit peu avec Pascal il y a un certain temps. Alors, la raison est double. La première, c'est que il y a à peu près 2 ans, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Analog Circuit Design, qui est écrit par les gens qui ont travaillé pour Analog Devices et qui ont participé à la création des circuits analogiques d'une façon générale. Donc, pas seulement l'ampli-op, mais beaucoup d'autres choses. Bon, c'est un livre excellent que je co conseille à tout le monde de lire. On le trouve sur Internet. Et la deuxième raison, bon, elle est un peu personnelle, je me suis aperçu que cette année, ça fait 40 ans que j'ai commencé à travailler. Et le premier projet sur lequel j'ai commencé à travailler était lié avec l'amplificateur opérationnel MUA709, qui est un amplificateur de légende. Bon, à l'époque, je ne savais pas par qui ça a été fait, comment que ça a été fait. Maintenant, j'ai une idée beaucoup plus claire. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçu qu'à la base de tout ça, c'est un circuit qu'on appelle aujourd'hui amplificateur opérationnel. Et donc, c'est pour cette raison-là. C'est un peu une histoire, bien sûr, très, très courte de l'ampli-op. Voilà. Maintenant, sur la page que vous voyez, à gauche, vous voyez le premier symbole qui a été utilisé dans les années 50 de l'ampli-op. Et à droite, vous voyez la version moderne du premier amplificateur opérationnel qui était commercialisé à une large échelle, qui naturellement était un amplificateur à tube. Bon, une tube, c'est à peu près équivalent à un transistor MOS. Donc, avec des transistors MOS, on peut faire son équivalent et ça marche très bien. Alors maintenant, d'une façon générale, là, vous avez les étapes les plus importantes de cette histoire. Tout a commencé dans les années 20, principalement à deux endroits dans le monde, au laboratoire Bell aux États-Unis, à Massachusetts, autour de Boston, et dans les laboratoires Philips. Il y a beaucoup moins de données historiques ce qui s'est passé à Philips, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites en parallèle dans les laboratoires de Philips en Hollande. Alors, le début de toute l'histoire, c'est ce qu'on appelle la paire à queue longue, long-tailed pair, qui est en fait l'amplificateur différentiel qui a été développé en 1938. Bon, c'est la base de tout. Tous les amplificateurs opérationnels actuellement sont basés sur cette structure-là. Historiquement, le premier op-amp est apparu en 1941 au laboratoire Bell, bien que le nom est apparu un peu plus tard, en 1947. Bon, ce nom a été donné par quelqu'un qui était professeur à l'Université de Columbia, Ragazzini, qui a travaillé avec Julie Love en 1941. Le premier circuit industrialisé à large échelle, c'est le modèle K2W de une société qui s'appelle le GAPR, George A. Philbrick Research, en 1952. Donc, George Philbrick est ce qu'on peut dire actuellement le père de l'électronique actuelle moderne et de l'amplificateur opérationnel en particulier. Bien sûr, la technologie évolue. 1958, on a le premier ampli-op à transistor. Le premier ampli-op monolithique circuit intégré MUA720 en 1963. Celui qui est devenu un standard mondial, MUA741 en 1968. L'amplificateur à transistor JFET 1970 et l'amplificateur à transistor CMOS 1974. Donc ça, c'est en gros les moments clés de cette histoire. Alors, au départ, le problème qui a été étudié, c'était le problème de la contre-réaction. Voilà, c'est tout simple. Ça commence par ça. Donc un amplificateur avec un circuit de contre-réaction, ça s'est passé dans les années 30. Et en fait, le premier brevet de quelque chose qu'on peut appeler un amplificateur opérationnel est apparu en 1941, toujours par Bell Labs. Bon, c'est l'endroit où apparemment se sont passées beaucoup, beaucoup de choses dans ce domaine-là. L'électronique de base, les tubes, le circuit à queue longue, donc l'amplificateur différentiel, deux entrées, entrée positive, entrée négative, et la sortie qui fait la différence entre les deux entrées. Donc, ce circuit-là, en tant que tel, il est apparu en 1938. Et en fait, la première fois où ça a été réellement utilisé à large échelle, c'est à Bell Labs sur le projet qu'on appelle le M9, qui est un projet militaire, dans lequel George Shubrick effectuait la supervision de Julie Loeb, qui a en fait effectué le design de ce qu'on peut appeler le premier ampli op. En fait, les symboles qui sont utilisés, vous les avez à gauche. Donc ça, c'est le symbole original. En haut, le symbole qu'on utilise le plus souvent est le symbole standardisé d'après les standards européens, qui est un carré avec deux entrées et une sortie. Le modèle d'un ampli op est représenté à la figure du milieu. Et en fait, dans l'ampli op, il y a deux gains. Il y a ce qu'on appelle le gain différentiel, qui fait la différence entre les deux, et le gain en mode commun. Le gain en mode commun, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, il est très faible. Et dans les amplis modernes, il est pratiquement nul. Donc, quelque chose qu'on néglige assez souvent. Bon, si on veut être rigoureux, il faut écrire l'équation en dessus. Alors, l'ampli op idéal, qu'on utilise très souvent dans les calculs, surtout avec nos étudiants, il est là. Donc, c'est une source de tension contrôlée par une tension, la tension différentielle à l'entrée, avec un gain différentiel, une impédance de sortie infinie, une impédance de sortie nulle, une impédance d'entrée infinie, et, ce qui est très important, un offset qui est nul. Bon, l'offset, c'est tout un monde dans l'histoire de l'ampli op. Je ne vais pas en parler parce que ça va devenir un peu trop compliqué, mais c'est un grand problème qui a créé aussi des solutions électroniques très, très intéressantes. Bon, malheureusement, je n'en discuterai pas dans cette présentation. Voilà. Ce qui est le plus bizarre, c'est que ce modèle, qui est pratiquement un modèle très, très idéalisé, ressemble beaucoup aux amplificateurs qu'on a actuellement. Si vous regardez les paramètres, vous allez voir des impédances de l'ordre de teraohm qui sont pratiquement infinies, des impédances de sortie de quelques ohms, des bandes passantes qui dépassent largement les centaines de mégahertz actuellement. Donc, c'est un amplificateur qui, je dirais, est presque proche de la réalité. Bien sûr, le circuit possède des propriétés très intéressantes et principalement des propriétés d'effectuer des calculs arithmétiques. Donc là, vous avez les montages de base, le montage inverseur, le montage non inverseur, le sommateur, l'intégrateur et le différenciateur, ça c'est très important, et le calcul de différence. Bon, ici je n'ai présenté que des applications linéaires. On peut faire aussi des applications non linéaires. Il suffit d'ajouter une diode quelque part dans les circuits de contre-réaction. Vous savez tous que la diode, c'est une fonction exponentielle entre le courant et la tension. Quand on a une fonction exponentielle, on peut calculer des exponentielles ou des logarithmes. Quand on a des logarithmes, on peut faire des multiplications. Donc, avec ce circuit, il y a aussi toute la partie opération arithmétique non linéaire qui est accessible. Maintenant, la propriété la plus intéressante qui a été utilisée dans les années 40, c'est la résolution d'équations différentielles. Dès qu'on peut faire l'opération d'intégration et de différenciation, on peut faire des schémas d'équations différentielles et on peut faire la simulation d'équations différentielles par des circuits électroniques. Là, vous avez un exemple typique qui est une masse ajoutée, qui est masse suspendue à un ressort avec un amortisseur. On voit une simulation sur la masse, donc une impulsion de forme quelconque, f de t, et puis la masse commence à osciller, donc la distance x varie. Eh bien, le circuit, l'équation différentielle qui simule le fonctionnement de ce circuit, elle est là, de ce système. Et puis, vous avez aussi le schéma électronique qui permet de faire la résolution et la simulation de cette équation. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est par ça que tout a commencé. La simulation de circuits réels et surtout la résolution des équations différentielles. Alors, les circuits réels à l'époque, puisque c'était au temps de guerre, c'était des systèmes militaires. Voilà. À cause de ça, en 1947, Ragazzini a appelé ce circuit un peu magique amplificateur opérationnel. Voilà. Maintenant, tout ça a commencé réellement à une large échelle en tant que lutte pour la paix. Voilà. Les premiers qui ont utilisé ça, maintenant on le connaît, c'est les Allemands. Donc, le missile V2, la dynamique du missile V2 a été simulée avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un calculateur analogique. Vous l'avez sur la partie gauche de la figure. Le missile lui-même, il était guidé par un ordinateur qui est un ordinateur analogique, vous l'avez sur la partie droite de la figure. Donc tout ça a commencé en Allemagne en 1935. Bien sûr, en parallèle, il y a eu les mêmes développements aux États-Unis et en Russie. Ils ne sont pas très très connus actuellement. Ils n'étaient pas très très connus actuellement. Bon, maintenant on peut reconstituer un peu l'histoire. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a un livre très très intéressant qui est écrit par Norbert Wiener, qui est le mathématicien qui est un peu à la base de cette théorie-là aux États-Unis, ou Kolmogorov, qui est la base de mêmes théories aux États-Unis, en Russie. Alors, aux États-Unis, les efforts principaux étaient sur le projet qu'on appelle le M9 Gun Director, qui est en fait un ordinateur de contrôle de tir. Tout simplement, c'est une machine qui reçoit des données d'un radar, qui calcule la trajectoire d'un avion ou d'un objet volant. À partir de cette trajectoire, elle fait une interpolation de la trajectoire et dirige un canon antiaérien de manière à ce que l'obus intercepte la trajectoire à un certain moment donné. Voilà, vous avez ici au milieu le calculateur M9. Alors, c'est un système qui s'est avéré extrêmement efficace. Pour donner un exemple, en avril 1944, les Allemands ont tiré 81 missiles V1, donc c'est l'équivalent du missile de croisière, et 89 entre eux ont été détruits par le M9 qui est installé en Angleterre. Voilà. À partir de la guerre, bien sûr, les militaires ont continué à travailler sur ce domaine-là, mais les amphibes sont rentrés aussi dans la vie civile. George Kubrick a démarré la société qui s'appelle Gap Air, qui est la base de l'industrialisation de ces technologies en 1946. Et en fait, Gap Air, au début, était une société orientée vers la fabrication d'ordinateurs analogiques. Bien sûr, le circuit de base de l'ordinateur analogique, c'est l'ampli-op. Et en 1952, le premier amplificateur opérationnel industrialisé était le K2W, vous avez son schéma ici, et il était industrialisé au prix de 20 dollars. Bon, ça fait à peu près 150 à 200 euros des prix actuels. Ce qui est assez remarquable, c'est que ce circuit a été fabriqué jusqu'en 1971, donc à peu près 20 ans. Alors, juste une remarque, donc sur le schéma, vous avez deux triodes double, deux lampes dans une seule boîtier qui sont branchées en LTP, long tail pair, et les deux circuits qui se trouvent, les deux composants qui se trouvent à droite, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des diodes Zener. Voilà l'équivalent moderne de cet amplificateur-là qui est totalement fonctionnel et que, bon, je pense qu'on peut même le retrouver dans un certain nombre de circuits CMOS. L'ordinateur analogique, bien sûr, était l'outil principal qui a consommé la production d'amplificateurs opérationnels. C'est une machine, ici, dans ce cas-là, qui a été utilisée beaucoup dans le domaine du spatial, en particulier pour tout ce qui est simulation de vol d'engins spatiaux, donc pénétration dans l'atmosphère, retour sur Terre. Et ainsi de suite. Une partie du programme Apollo a été simulée également sur des ordinateurs analogiques de ce type-là. La technologie évolue. En 1947, on a le transistor qui est apparu. Et en 1954, on a le transistor au silicium. Donc les premiers transistors au germanium n'étaient pas très très bons, donc n'ont pas trouvé une très grande application dans les amplis-op, tout simplement parce qu'à l'époque, les amplis qui étaient faits avec des tubes avaient des performances qui étaient bien supérieures à ceux qu'on pouvait faire avec les transistors au germanium. Donc, avec la technologie planar, on a commencé à faire des transistors de bonne qualité avec des paramètres qui étaient intéressants pour faire des amplis up. Il était naturel à ce que ça se retrouve dans les circuits électroniques de l'époque. Et vous avez ici le premier module d'amplificateur up à transistor qui a été commercialisé, qui est le modèle P45, toujours de la société Gap-R. Il a été développé par quelqu'un qui s'appelle Bob Pease. C'est un designer légendaire, donc je parlerai un peu plus tard de nouveau pour lui. En fait, vous voyez que la structure reste la même. Donc, vous avez une structure LTP seulement avec des transistors, qui est ici, et vous avez en fait un étage de sortie. Ce qui est remarquable, c'est que avec uniquement 9 transistors, on arrive à faire un circuit avec des performances qui sont assez exceptionnelles. Le P45, il a un gain de 50 000 et un bande passant, donc gain bandwidth product, de 100 MHz. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça se passe en 1961. Et c'est le P45 qui a introduit l'alimentation de plus ou moins 15 volts qu'on continue à utiliser encore jusqu'à aujourd'hui. Quelques mots sur Bob Pease. Bon, je vais en parler un peu pour les personnalités clés de cette histoire. C'est un très, très grand ingénieur. C'est lui qui était en quelque sorte le gourou de National Semiconductor. Il a travaillé dans cette boîte et il y a beaucoup de circuits de National qui ont été développés par Bob Pease. Il était considéré comme le roi de la source de tension. Le LM337 que tous ceux qui ont fait de l'électronique connaissent bien a été également conçu par Bob Pease. Énormément d'autres circuits, en particulier des convertisseurs voltage, des convertisseurs tension-fréquence. Et ce qui est le plus intéressant, il a une rubrique où il discute des problèmes généraux de l'électronique qui s'appelle « What's all this stuff ?» Bon, ici, il y a quelque chose. Anyhow, donc, tout ça est accessible sur Internet, sur le site de Electronics Design. Donc, les gens qui sont intéressés à l'électronique et vraiment à des choses très, très subtiles peuvent lire ses écrits jusqu'à aujourd'hui. Bob Pease a travaillé aussi pour la NASA. Là, vous avez une étape intermédiaire qui sont les amplificateurs non totalement intégrés, mais les circuits hybrides. Donc, vous avez des transistors, des ensembles de résistances qui sont montés sur un substrat. Et à droite, vous avez le schéma équivalent de cet amplificateur. Alors, ce qui est remarquable, c'est un amplificateur à entrée JFET en 1969. Et ça a été énormément utilisé dans les programmes militaires et les programmes spatiaux. Certains de ces amplis se trouvent toujours sur la Lune, 40 ans après les vols de Apollo 12. Alors, en 1967, Gap-R a été transformé en quelque chose qui s'appelle Teledyne FieldBrick Nexus. Donc, la société a commencé à croître. Nexus apparemment était un collaborateur de FieldBrick et Teledyne était une société d'électronique de l'époque qui a regroupé tout ça. Alors, la structure de base d'un ampli up, vous l'avez ici. Donc, à l'entrée, c'est toujours le LTP. Il y a 3 étages. Donc, premier étage d'amplification, deuxième étage qui est un étage d'amplification et de changement de offset qui permet d'adapter l'offset qui est introduit par le premier étage vers l'étage de sortie. Et le troisième étage est un étage de puissance. Bon, actuellement, dans tous ces étages de puissance, il y a aussi la protection contre les courts-circuits. Voilà, cette structure-là n'a pas changé beaucoup depuis les années 60. L'évolution de la technologie a permis à faire en 1963 le premier amplificateur complètement intégré en utilisant la technologie planar. Donc ce circuit a été développé par Bob Wislar. À l'époque, il travaillait pour la société Fairchild. Et c'est probablement le plus grand génie de l'électronique analogique. Quand on regarde un peu tout ce qu'il a fait, eh bien, la moitié des circuits avec lesquels on travaille actuellement ont été conçus par Bob Pease et l'autre moitié par Bob Vidlar. Alors, le 702 était le résultat d'une commande militaire, puisqu'à l'époque, c'est un circuit qui se vendait à 300 $ pièce, qui est une somme absolument considérable en 1963. Le circuit n'est pas très très bon parce que, premièrement, la sortie n'est pas protégée contre des courts-circuits, et deuxièmement, il a des problèmes de stabilité. C'est assez difficile d'assurer la stabilité en fréquence de ce circuit-là. Alors, Widlar a refait son design et en 1965 a ressorti le MUA 709, qui est le premier grand succès commercial des amplificateurs opérationnels. Alors, c'était un caractère très très particulier qui était connu par le fait qu'il détestait totalement l'électronique numérique qui commençait à se développer à l'époque. Et vous avez une sentence célèbre de lui qui est sur le titre de ce transparent concernant l'électronique numérique. Il est connu aussi pour avoir inventé un outil de développement qui s'appelle le Widlarizer, qui permettait de déboguer des circuits qui ne marchaient pas bien. Voilà. Et puis, il est connu aussi pour avoir conçu, comme je vous l'ai dit, un nombre infini de circuits analogiques intégrés. Les choses ont vraiment changé de dimension avec l'apparition de l'amplificateur MUA741, qui était conçu par un Anglais, David Fullagar, toujours à Fairchild, en 1968. Alors là, on a tous les ingrédients d'un amplificateur moderne de très très haute performance. Une entrée qui est alimentée par des sources de courant, donc toujours LTP. Page intermédiaire avec une stabilisation en fréquence. Donc pour la première fois, on a vu l'intégration d'un condensateur à l'intérieur d'un circuit intégré. Et un étage de sortie de haute performance avec une protection contre les courts-circuits. Le 741 était un amplificateur avec des performances exceptionnelles pour l'époque et c'était un circuit qui était pratiquement indestructible. Donc, ça a fait que ce circuit continue à être utilisé toujours actuellement. Il est toujours en production. Alors, il y a peu de circuits électroniques qui ont été produits entre 1968 et 2020. Ça fait à peu près 50 ans dans la production. Imaginez-vous une voiture qui est restée 50 ans en production dans le domaine de l'industrie automotive. Voilà, c'est le cas du MUA 741. Le layout est assez intéressant. Vous voyez que le condensateur, qui pose toujours des problèmes actuellement, occupe à peu près un quart de la surface du chip. On voit très bien les différentes parties de l'amplificateur, l'étage d'entrée, l'étage intermédiaire et l'étage de sortie, et le boîtier classique, donc le boîtier métallique avec tout à commencer. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Farnell, tout à fait au hasard, MUA 741, produit par ST. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Si vous l'achetez par 1000, il va vous coûter 12 centimes la pièce. Voilà. Dans les boîtiers modernes, donc montage en surface, qui occupe très très peu de place. Alors, on peut trouver des données un peu plus économiques. L'estimation, c'est que MUA 741 a généré un chiffre d'affaires autour de 10 milliards de dollars pendant sa vie, qui continue encore. On ne sait pas encore combien ça va continuer à exister. Alors, en prenant un prix de 50 centimes, un prix moyen de 50 centimes par circuit, on arrive à un nombre de 20 millions de circuits produits. Ça veut dire qu'en gros, pour chaque habitant sur la planète, il y en a entre 3 et 4 amplificateurs MUA 741 qui ont été produits. C'est probablement le circuit le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'électronique. Alors, l'étape suivante, bien sûr, avec l'évolution de la technologie, c'est l'apparition des amplificateurs à entrée un transistor à effet de champ. Donc, au départ, j'y fais. Ça s'est passé en 1970. Ces amplificateurs ont permis une très grande avancée au niveau de la fréquence de coupure. Donc, là, vous avez des amplificateurs qui sont très rapides et au niveau du courant d'entrée. Comme vous le savez, les transistors JFET ont des courants d'entrée qui sont très faibles, donc on change complètement de gamme de impédance d'entrée comparé aux amplificateurs opérationnels bipolaires. Il n'y a pas que des avantages, ils ont un certain nombre d'inconvénients. Ils ont des offsets qui sont un peu plus grands et ils sont un peu particuliers au niveau du bruit. Donc, ce n'est pas un changement disruptif, c'est un changement évolutif. Donc, c'est quelque chose qui continue à exister en parallèle avec les amplis classiques à transistors bipolaires, bon, qui sont utilisés pour des applications un peu plus particulières. Et à la fin, la dernière grande avancée, c'est en 1974, l'apparition de l'amplificateur CMOS, qui utilise des transistors MOS, CMOS à l'entrée, donc PMOS et NMOS à la sortie. Et c'est un amplificateur qui a été créé par RCA, qui à l'époque a été la première société qui a développé à grande échelle une technologie CMOS pour des applications linéaires. Alors, la particularité de ces amplis, c'est qu'ils ont des impédances d'entrée exceptionnelles. Donc, celui-là, il a une impédance d'entrée de 1,7 téraohm et très très faible courant d'entrée. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée de ces grandeurs-là, les impédances d'entrée sont tellement fortes qu'on conseille à ce qu'on fait le montage de ces circuits, soit d'utiliser des substrats spéciaux, en particulier des céramiques ou du verre, ou alors de faire ce qu'on appelle le montage en R, où les pattes d'entrée ne sont pas liées au circuit qui supporte qui supporte l'ampli op, tout simplement parce que la résistance de fuite du circuit imprimé est du même ordre de grandeur que l'impédance d'entrée du circuit d'entrée. Alors, l'intérêt de ces amplificateurs, c'est plutôt dans le design. Actuellement, vous savez que pratiquement tous les circuits numériques sont basés sur une technologie CMOS. Et dans les circuits qu'on appelle les systèmes on chip, il y a très souvent une partie analogique. Eh bien, cette partie analogique, elle est basée sur des designs de ce type-là. Et donc, dans chaque circuit CMOS numérique où vous avez des convertisseurs analogiques numériques, convertisseurs numériques analogiques ou de la partie audio, qui est le cas par exemple pour tout ce qui est circuit de téléphonie, eh bien, à l'intérieur, vous avez des designs d'amplificateurs avec des transistors CMOS. C'est quelque chose qui existe en tant que composant, mais est utilisé vraiment pour des applications très très particulières où on demande des courants d'entrée très très faible et des impédances d'entrée énormes. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant un peu dans tout ça, c'est l'évolution des sociétés qui ont démarré cette industrie. Comme je vous l'ai dit, à la base, tout était le gap R. Le gap R est devenu Cubic Nexus, ensuite Teledyne Fubric, Teledyne Semiconductor. Donc, ils ont racheté une société qui s'appelait E2V, qui a une représentation à Grenoble, qui se trouve juste en face de l'IMER, face à Martin-Lévignoux. Et actuellement, on peut dire que l'héritier de GapR, c'est la société Microchip, qu'on connaît plus pour les microcontrôleurs qu'elle produit, mais en fait, c'est un très très grand producteur aussi de circuits analogiques. Donc, quand vous achetez un circuit analogique, un ampli op de Microchip, quelque part, vous achetez un peu de l'héritage de George Fubrick. Un autre grand joueur dans ce domaine, c'est la société Fairchild, qui était fondée à l'époque par Shockley, qui est à la base du transistor et un peu du circuit intégré, qui actuellement qui faisait partie de National Semiconductor, qui lui actuellement fait partie de Texas Instruments. Voilà. Autre grand joueur dans le domaine, c'est Analog Devices, fondé par un autre grand personnage de l'industrie électronique, Ray Satan, en 1965, qui existe toujours, qui est connu surtout pour des circuits des circuits analogiques de très très haute performance. Burr Brown, également un joueur très important, qui a été acquis par Texas Instruments dans les années 2000, Et il y a deux sociétés qui sont Maxim et Linear Technology, qui ont été fondées par des gens qui sont partis de Gap Air, de Fairchild et National Semiconductor. Maxim continue toujours à exister et Linear Technology a été récemment repris par Analog Devices. Actuellement, les grands joueurs dans le domaine des amplificateurs opérationnels, c'est Analog Devices plus Linear Technology, Maxim, Texas Instruments plus National Semiconductor, Microchip et un fait qui est mal connu, c'est STMicroelectronics. On verra un peu plus tard, STMicroelectronics est un producteur très important de circuits analogiques et d'amplificateurs opérationnels. Alors, concernant ST, j'ai regardé un peu, ils ont une gamme très très complète d'amplificateurs, donc vous avez les tensions d'alimentation et le domaine d'application, donc nano, micro, low, power, très faible tension d'offset, amplificateur de précision, très faible consommation et très rapide. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces circuits sont certifiés pour une utilisation dans l'automobile. Alors, je dis ça parce que l'utilisation dans l'automobile demande des caractéristiques exceptionnelles des circuits qui se rapprochent à ceux des circuits destinés à des utilisations militaires ou spatiales. Bon, c'est un peu plus relaxé, mais c'est quand même des circuits de très très haute performance et de très très haute qualité. Ce qui, comme je vous l'ai dit, est mal connu, je regardais un peu dans les bilans financiers de STMicroelectronics. La division Analog MEMS and Sensor Group, AMS, a des revenus de 3,3 milliards de dollars par an. C'est 30% des revenus de ST. Nous, on a, ou tout au moins moi, j'ai l'impression que ST est plutôt une société qui fait du numérique, alors que vous voyez que, en fait, c'est une société qui est très, très profondément implémentée dans le domaine de circuits analogiques. Bien sûr, il n'y a pas de détails sur ces revenus, mais je pense qu'une grande partie de ces 3,3 milliards revient de ce schéma que vous avez ici des amplificateurs opérationnels. Alors, ça, c'est d'une façon très, très générale. Toute cette branche de l'industrie a été créée par des ingénieurs exceptionnels qui ont proposé des solutions absolument exceptionnelles. Je vais juste revenir sur deux cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle l'amplificateur à varactor à l'entrée, qui est un amplificateur à très faible courant d'entrée. Ça a été développé par Phil Brick. L'idée est que ici, on a deux condensateurs. Donc, en fait, c'est des varicaps. Condensateurs qui sont polarisés qui peuvent varier en fonction d'une tension, qui sont alimentés par une petite tension alternative. Donc, au moment où la tension appliquée à l'entrée est zéro, les deux condensateurs sont les mêmes, ce qui fait qu'à cette entrée-là, les deux tensions sur le premier et le deuxième condensateur qui sont en opposition de phase s'annulent et ici on a zéro. Si on applique une tension positive ou négative, l'un des condensateurs va augmenter, l'autre il va diminuer, ce qui va créer un disbalance dans le pan, ici, dans le diviseur formé par les deux condensateurs, et ce qui va faire apparaître une petite tension alternative dont l'amplitude est proportionnelle à la tension continue. Donc en fait, ce qu'on fait, on fait une conversion tension continue, tension alternative, avec un circuit qui, comme il est composé de condensateurs, n'a pas de courant d'entrée, ou alors à des courants d'entrée qui sont extrêmement faibles. Donc en fait, on résout deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème du courant d'entrée, et le deuxième problème, c'est que l'amplification se fait sur une tension alternative. Donc on n'amplifie pas des tensions continues, et on s'affranchit du problème de l'offset des amplificateurs. Donc on peut appliquer des gains qui sont très grands, puisqu'on n'amplifie que des tensions alternatives. Ensuite, bien sûr, il y a une partie des modulations et on reconstitue la tension continue de sortie. Alors, c'est ce qu'on appelle le picoampère input current. Le premier circuit a été réalisé par Phil Brick, mais le premier circuit qui réellement a été commercialisé par un de ses collaborateurs, Bob Malter, en 1950. Et ce circuit avait un courant d'entrée entre 5 et 10 picoampères. c'est quelque chose d'absolument incroyable à l'époque. C'est même quelque chose d'incroyable jusqu'à aujourd'hui. Il le vendait assez cher, donc 227 $, alors que le prix moyen d'une voiture neuve aux États-Unis à cette époque-là était de l'ordre de 2 500 $. Et ce circuit a été produit pendant 30 ans. Il a été dépassé par la gamme Femtoampère, donc des amplificateurs CMOS, dont le premier est le LMC 660 en 1998. Donc il est resté dans la course pendant 36 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Alors voilà le schéma tel qu'il est donné par Bob Pease de l'époque, qui a travaillé à Philbrook et qui a travaillé sur cet amplificateur-là. Bon, il est un peu plus différent de ce qu'il y avait avant. À l'entrée, il y a un pan de 4 varicaps. Donc le V45, c'est des varicaps. Donc vous avez ici à droite l'oscillateur, le transformateur et l'amplificateur avec le détecteur synchrone qui se trouve à cet endroit-là. Donc, tout ça a été formé en tant que module et c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel. Le cas numéro 2, c'est le oscillateur à pan de Wien bien connu, que je suppose on utilise tous en travaux pratiques d'électronique, tout au moins nous on utilise à l'UIT. Voilà le circuit qu'on utilise. Bon, ici il y a une résistance et ici il y a le pan de Wien. Ce qui est moins connu, c'est que ce type d'oscillateur a été développé par quelqu'un qui s'appelle Bill Hewlett dans sa thèse de doctorat en 1939. Voilà le circuit original. C'est un circuit qui, pour un certain nombre de raisons, possède des propriétés extrêmement intéressantes. Et la propriété la plus intéressante, c'est qu'il permet de fournir une sinusoïde avec un très faible taux de distorsion. À droite, vous avez la photo du générateur qui a été produit par Hewlett et Packard et qui est à la base de la société qu'on appelle aujourd'hui Hewlett Packard. Donc, c'est une société qui, bien qu'aujourd'hui est connue en tant qu'une société purement numérique, c'est une société qui a démarré avec un amplificateur opérationnel et avec un générateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? Il y a énormément de choses sur Internet et des livres. Moi, je vous conseille de lire ce livre-là, Analog Circuit Design, de Jim Williams. Jim Williams, c'était un des grands gourous de Analog Device et qui, dans ce livre, a ramassé un peu les souvenirs des personnes, pas forcément de Analog Device, de toutes les personnes qui ont participé au développement des amplis hop. Un livre extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses sur les circuits analogiques en général. Alors, les notes d'application et les livres. Bon, je vous conseille ce livre-là qui est écrit aussi par un des grands ingénieurs de Analog Device. Les choses les plus intéressantes se trouvent, d'après moi, dans les notes d'application qu'on trouve sur les sites des sociétés. Il faut savoir que ces notes d'application sont écrites en général par les gens qui ont fait la conception de ces circuits-là et donc par les gens qui connaissent mieux les circuits. Livre très intéressant d'une façon générale sur l'électronique de Bob Pease. Les commentaires concernant l'électronique de Bob Pease se trouvent sur Electronics Design, donc vous l'avez sur Internet. Plein de choses extrêmement intéressantes. Et bien sûr, le livre classique de l'électronique qui est le Horowitz and Hill, The Art of Electronics. Beaucoup de choses intéressantes sur les amplis hop. Maintenant, d'une façon plus générale, bon, c'est une présentation dédiée à l'amplificateur opérationnel. C'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'en fait, quand on y réfléchit, c'est le circuit qui est la base de toute l'électronique analogique. Là, ici, la vision de George Philbrick de l'électronique moderne, et vous voyez que à la base de l'arbre de l'électronique se trouve le circuit appelé amplificateur opérationnel. Bien sûr, quelque chose pour lequel je n'ai pas parlé du tout dans cette présentation, c'est la technologie. Ça ne peut exister que parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la technologie de semi-conducteurs qui existe. Et en fait, on a bien vu que c'est la technologie qui a fixé les différents types d'amplificateurs à tube, à transistor, circuits hybrides et circuits complètement intégrés. Et dans les circuits intégrés, vous avez les circuits bipolaires, les circuits à effet de champ et les circuits MOS, SMOS. Donc, en fait, l'image générale, vous l'avez sur ce transparent-là. Un iceberg. La partie invisible de l'iceberg, c'est la technologie de semi-conducteur. Et ce qu'on voit, c'est les circuits intégrés analogiques. Et bien sûr, les pics ici que vous voyez, c'est les amplificateurs opérationnels. Bon, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas être très très long. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, bien sûr, si je peux.
Allô? Oui.
Oui.